VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
7h à Ouagadougou, 18h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. À RCA, la nouvelle Assemblée nationale a officiellement pris fonction ce mardi. La cérémonie s'est déroulée au Palais du Peuple à Bangui. Au total, 128 députés sont convoqués pour cette première session extraordinaire du nouveau Parlement qui doit se terminer le 17 mai. Le point avec notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
L'ambiance était à son comble ce mardi au siège du Parlement situé dans le premier arrondissement de Bangui. Les nouveaux élus ont été ovationnés par leurs proches et électeurs à la sortie de l'hémicycle. Des chants, des acclamations, mais aussi des spectacles parfois encombrants. La séance a été présidée par le député de Satéma, René Constant Boudou, 73 ans, doyen d'âge.
Cette première séance consiste à installer les députés. Cela veut dire que c'est à partir d'aujourd'hui que tous ceux qui ont été élus sont députés de la nation. Et cela implique tous les avantages dont ils ont droit, le rôle qu'ils auront à jouer.
Le top est désormais donné. Reste maintenant à constituer le bureau de la nouvelle Assemblée nationale. C'est la date du 6 mai prochain qui est donc retenue. Cette première session extraordinaire du nouveau Parlement centrafricain ouverte ce mardi prendra fin le 17 mai prochain. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
RDC, trois employés de la Croix-Rouge internationale ont été enlevés aujourd'hui dans l'est du pays par des hommes armés non identifiés. C'est ce qu'a annoncé ce mardi Elisabeth Cloutier, chargée de communication du Comité international de la Croix-Rouge, le CICR. Depuis 7h20 du matin, temps universel, nous n'avons plus de nouvelles de nos trois agents envoyés sur le terrain à Rutshuru, dans le sud de la province du Nord Kivu, a précisé Mme Cloutier. Les trois personnes enlevées sont de nationalité congolaise, a souligné un responsable de l'administration locale. Élection présidentielle aux Comores. Le scrutin présidentiel sera réorganisé le 11 mai dans 13 localités à la suite d'irrégularités lors du second tour du 10 avril. Selon un décret présidentiel signé lundi, décision susceptible de changer les résultats provisoires des élections. La campagne est ouverte le 3 mai et close le 9 mai, souligne le décret signé par le président sortant Ikililu Doinine. Un second décret précise que la journée du 11 mai sera chômée et payée à Anjouan, l'île où va se tenir l'élection dans les 13 localités concernées. On passe maintenant à l'Afrique de l'Ouest, Mauritanie. Le président mauritanien Mohamed Oul Abdelaziz a annoncé aujourd'hui son intention d'organiser un référendum constitutionnel pour la suppression du Sénat, une institution qui alourdit, selon lui, le processus d'adoption des lois dans le pays. Nous allons convier toute la classe politique pour un dialogue autour de cette question qui sera ensuite soumise à un référendum constitutionnel, a précisé le chef de l'État sans donner de date pour le scrutin. Mohamed Oul Abdelaziz a aussi affirmé donner à ses opposants 3 à 4 semaines pour prendre leurs décisions au sujet de leur participation à ce débat. Le Sénégal et les États-Unis ont signé lundi à Dakar un accord de défense permettant la présence permanente de militaires américains dans le pays pour notamment lutter contre la menace terroriste en Afrique de l'Ouest. Plus de détails avec Tatiana Mosso.
Un des points de cet accord est la possibilité accordée aux forces américaines d'accéder à des zones au Sénégal, aéroportuaires ou militaires par exemple, pour répondre notamment à des besoins de sécurité ou de santé, et ce, pour une durée indéterminée, selon des responsables des deux parties, se refusant néanmoins à parler de base américaine. L'accord a pour objectif de fixer un ensemble de règles sur la façon dont les forces armées des États-Unis coopèrent avec les forces armées du Sénégal et sur les conditions d'accès et d'utilisation des installations concernées lorsque les militaires américains sont invités au Sénégal. Le pays a accueilli en février pour la troisième fois l'exercice militaire Flintlock, organisé annuellement par les États-Unis en Afrique. Jusqu'à présent épargné par les attaques djihadistes, le pays a renforcé la sécurité dans de nombreux lieux publics comme les hôtels et les administrations.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Burkina Faso, l'annulation des mandats d'arrêt contre Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, et aussi l'ancien leader burkinabé Blaise Compaoré, continue de susciter des réactions. La confiance du public dans la détermination des autorités burkinabées dans cette affaire est loin d'être unanime, malgré la promesse des nouvelles poursuites. Les détails à Ouagadougou avec notre correspondant Issa Napon.
À Ouagadougou, l'on s'interroge sur le réel fondement de cette annulation. Marcel Tangwano est le président du mouvement du 21 avril M21, l'une des organisations de l'insurrection populaire qui a emporté Blaise Compaoré.
Mais nous ne comprenons pas comment, à ce niveau-là, après 8 mois qu'on vient nous dire qu'il y a vice de force, nous cherchons à comprendre, nous n'allons pas tolérer cela. Ce n'est pas possible.
À écouter, et le président de la République et quelques personnes autorisées comme le ministre d'État Simon Compaoré, il s'agit là de simples couac dans les procédures judiciaires qui vont vite se régler, quand pour d'autres, cela est un réel motif d'inquiétude. L'avocat de la famille Sankara, Maître Ambroise Farama.
Je pense qu'il s'agit probablement de préparer l'opinion publique contre une éventuelle annulation. Et je pense qu'en tant qu'avocat, nous veillerons en tout cas à défendre les intérêts de nos clients.
Comment le commissaire du gouvernement en est-il arrivé là? Mystère, puisque sollicité pour apporter des éclairages, il n'a pas pu être disponible. Issa Napoum Ouagadougou, VOA Afrique.
Un bébé a été retiré vivant aujourd'hui des décombres, 4 jours après l'effondrement d'un immeuble dans un quartier pauvre de Nairobi qui a causé la mort de 23 personnes au Kenya. La petite fille a passé près de 80 heures dans une bassine enveloppée dans une couverture et était déshydratée, mais apparemment pas blessée, selon la police et la Croix-Rouge kenyane. L'immeuble de 6 étages s'est affaissé sur lui-même dans le quartier populaire de Uruma, dans le nord-est de Nairobi, en raison des pluies torrentielles et de la mauvaise qualité de la construction. Et puis, le Conseil de sécurité de l'ONU sera bientôt en Somalie pour exprimer son soutien aux élections prévues dans ce pays en août. C'est ce qu'a annoncé l'ambassadeur égyptien Amr Aboulata, qui préside le Conseil de sécurité. La Somalie tente de sortir du chaos et de la guerre civile dans laquelle elle a sombré en 1991. La tournée va durer du 17 au 21 mai. Les représentants des 15 pays membres du Conseil feront escale aussi à Nairobi et rencontreront la Ligue arabe au Caire en Égypte. En Syrie, malgré la trêve instaurée le 27 février par les États-Unis et la Russie, la situation ne s'améliore pas. Beaucoup de violations du cessez-le-feu ont été signalées, surtout dans la ville d'Alep. Le point avec Maïlys Hegel.
La trêve instaurée le 27 février aura duré moins d'un mois. Depuis la reprise des violences à Alep le 22 avril, plus de 250 civils sont morts, la majorité dans des raids menés par l'aviation du régime syrien. Face à ce constat, les États-Unis et la Russie ont instauré une nouvelle trêve, mais seulement autour de la région de Latakié, dans le nord-ouest du pays, et de Damas, et non à Alep, dont Bachar al-Assad contrôle les secteurs ouest. Lundi, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a dit souhaiter que ce cessez-le-feu soit étendu d'urgence à Alep. Il a exhorté de nouveau les États-Unis et la Russie à redoubler d'efforts pour remettre sur pied la cessation des hostilités. Le secrétaire d'État américain John Kerry a effectué lundi une visite éclair à Genève pour tenter de sauver la trêve en Syrie. Il a rencontré à Genève ses homologues jordaniens et saoudiens et s'est aussi entretenu avec le médiateur de l'ONU, Staffan de Mistura. Il s'est également entretenu au téléphone avec son homologue russe Sergei Lavrov. Ils ont convenu de prendre de nouvelles mesures, dont l'une serait la préparation d'une prochaine réunion.
Course à la Maison-Blanche aux États-Unis maintenant. Primaire cruciale aujourd'hui dans l'État d'Indiana pour les favoris, à savoir le républicain Donald Trump et la démocrate Hillary Clinton. Ces élections pourraient aussi se révéler déterminantes pour leur dernier rival, le sénateur républicain Ted Cruz, et son collègue démocrate Bernie Sanders, respectivement. Plus de précision avec Idrissa Sedoudia.
Une victoire de Trump aujourd'hui dans l'Indiana pourrait sceller le sort de M. Cruz, bien avant même la Convention nationale républicaine qui doit investir en juillet à Cleveland le candidat du parti. L'objectif de M. Cruz est d'empêcher Trump d'avoir les 1237 délégués requis pour passer au premier tour et de l'emporter lui-même par la suite. 57 délégués républicains sont en jeu dans l'Indiana, soit le plus grand lot avant la Californie le 7 juin. Les sondages donnent l'avantage à Trump, qui n'a pas hésité à dire « Si on gagne dans l'Indiana, c'est fini », ajoutant « Et après, on pourra se concentrer sur Hillary, la malhonnête ». La démocrate Hillary Clinton, de son côté, bat campagne dans l'Indiana, où la lutte est serrée entre elle et son rival Bernie Sanders. Mais elle a déjà commencé à axer ses attaques sur Donald Trump, comme si elle avait déjà éliminé de la course M. Sanders. Ce dernier ne s'avoue pas vaincu et compte poursuivre sa campagne jusqu'à la Convention nationale démocrate en juillet à Philadelphie.
Et pour terminer, un soldat américain a été tué aujourd'hui au nord de Mossoul en Irak lors d'une attaque du groupe État islamique. C'est ce qu'annonce le Pentagone. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.